Un podcast proposé par The Vox.
Bonjour Mathilde.
Bonjour Théo.
Merci de nous accueillir ici à Nevers. On va parler bien sûr de votre dernier et premier roman qui s'appelle Le Sigisbé. Juste avant qu'on évoque ce roman, on est chez vous, ici à Nevers.
On est chez mes parents, tout à fait, Nevers. On est dans l'association Tanabata Nevers Japon, qui promeut la culture du Japon à Nevers et qui anime le festival Tanabata à chaque printemps.
Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le fait de revenir ici à Nevers? Il y a toujours quelque chose de particulier quand on revient dans la ville où on a grandi, dans un environnement qui nous a vu grandir aussi.
Alors, à cheval, quand même, parce que donc, j'ai grandi en fait au Japon avec mes parents. Donc, tout mon collège-lycée, je l'ai fait au Japon. Mais il se trouve que mes grands-parents viennent d'ici. Ils viennent de Marzy. Donc, j'ai passé toutes mes vacances dans mon enfance à Marzy, puisque ma grand-mère était infirmière à l'hôpital de Nevers.
Ouais. Oui, il y a ce côté un petit peu peut-être romanesque aussi quand on revient. Ça donne peut-être envie d'écrire, je ne sais pas, sur l'environnement qu'on a connu, qui a évolué, qui nous a vu évoluer aussi un minimum. Alors, comme vous le dites, entre deux, avec un autre lieu aussi, mais il y a ce côté peut-être romanesque qui donne tout de suite envie d'écrire, je ne sais pas.
Bah, tout de suite, quand on parle Nevers et quand on parle Japon, il y a tout de suite quelque chose d'éminemment romanesque, parce qu'on pense à Hiroshima Mon Amour de Marguerite Duras, qui est l'histoire d'une Ivernaise partie au Japon. Donc, il y a en effet un héritage magnifique dans les liens entre Nevers et le Japon. Et puis, je suis quand même une amoureuse de la Loire. Je ne vis pas malheureusement en ce moment à Nevers, mais je vis en bord de Loire, plutôt du côté de Tours.
Bon, on va essayer de voir ce qu'il y a de vous et peut-être de votre jeunesse ici à Nevers, enfin à Marzy, mais du moins autour de Nevers, dans votre premier roman qui s'appelle Le Sigisbé, qui est sorti au mois de janvier.
Tout à fait.
C'est assez récent, oui. ce premier roman. Comment vous pourriez le décrire, déjà, rapidement, ce premier roman?
Donc déjà, c'est un roman épistolaire. Donc, ce qu'on lit, ce sont les lettres d'une noble vénitienne du XVIIIe siècle qu'elle écrit à sa fille. Sa fille qui a disparu quand elle avait 2 ans et elle cherche à renouer une relation avec sa fille adulte. Et donc, elle lui raconte son histoire. Son histoire est un peu particulière puisque cette noble vénitienne, comme toutes les femmes de l'époque, a vécu un mariage à trois. Les mariages se faisaient à trois, donc les femmes avaient le droit à 2 hommes, un mari et un sigisbé, qui était le chevalier servant, le confident, celui qui vous faisait la conversation, qui vous sortait dans le monde. Donc cette petite fille, elle a eu 2 pères finalement.
Vous êtes tombée sur ce mot, en fait, sigisbé, et ça vous a donné envie de vous renseigner, de regarder ce qu'était vraiment un sigisbé. En fait, si vous n'étiez pas tombée sur ce terme qui vous a questionné, ce livre-là ne serait peut-être jamais né.
Eh bien, tout à fait. Je suis tombée sur ce terme par hasard dans la Chartreuse de Parme de Stendhal. Et alors, comme vous, je suppose, au début, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'ai cherché dans le dictionnaire et là, je me suis dit, mais waouh, on a oublié ça. Il y a eu une époque où les femmes avaient le droit à 2 hommes dans leur mariage. On a tout oublié aujourd'hui. Et donc, quand je me suis mis à faire des recherches sur le sujet, je me suis dit, là, je tiens quelque chose parce que ça dit beaucoup de nos relations aujourd'hui hommes-femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 siècles en Italie où il était possible d'avoir une relation entre hommes et femmes qui n'était ni une relation de conjugalité, ni une relation de séduction ou de sexualité. Une forme d'amitié homme-femme qui était possible et qui, pour moi, devrait être mise au goût du jour.
Ah oui, mais carrément, mais bien sûr, mais parce qu'en fait, maintenant, ça paraît presque ubuesque, finalement, une relation comme celle-là. Maintenant, on appelle ça un trouble.
Ah, maintenant, on appelle ça un trouble, tout à fait. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on tisse une amitié entre hommes et femmes, en dehors des liens du mariage, tout de suite, elle fait l'objet de suspicions. On se demande si l'un est amoureux de l'autre, on se demande s'il n'y a pas anguille sous roche. Et je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi ce ne serait pas possible d'avoir des relations entre hommes et femmes?
En fait, j'ai l'impression que ce terme aussi montre une certaine liberté de la femme qui était assez révolutionnaire à l'époque, et ça explique beaucoup de choses sur le côté sociétal de l'époque par rapport à maintenant. En fait, on parle beaucoup de l'évolution maintenant, des droits des femmes, etc. Mais en fait, à l'époque, les femmes avaient des droits qu'on ignore presque parce que l'histoire a fait oublier certaines choses. Mais ça veut dire beaucoup de choses, finalement, pour les femmes, ce terme.
Tout à fait. Mais on a tendance à oublier que le 19e siècle a enfermé les femmes au foyer et que ce n'était pas forcément le cas au 18e, où elles étaient un peu plus libres. Alors, on ne va pas dire qu'elles étaient aussi libres qu'aujourd'hui. Elles avaient une vie mondaine, elles sortaient beaucoup, mais justement, ce CIJV, c'était quand même une manière d'encadrer aussi la liberté des femmes, puisque il était quand même adoubé par le mari, par la famille. Donc, votre femme avait le droit de sortir comme elle voulait, mais accompagnée quand même d'un homme que vous aviez choisi.
Mais qu'est-ce que c'est vraiment la frontière finalement entre le CIJV et l'amant ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une frontière.
Il y a une frontière assez floue, mais claire. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de ce concept du CIJV, tout de suite, on se dit « Ah oui, c'est l'amant de la femme ». Et en fait, pas du tout. Dans, j'ai envie de dire, 80% des cas, c'était d'abord un rôle mondain, un rôle social. C'était l'homme qui était là pour accompagner madame dans ses sorties, lui tenir compagnie, lui faire la conversation. Donc, c'était un rôle qui était quand même assez codifié. Et parfois, si affinité, cela pouvait se doubler d'une amitié sincère, ou même, en effet, d'une relation amoureuse, et pourquoi pas, en effet, de relations sexuelles et donc d'un amant. Mais finalement, c'était quelque chose dont on ne parlait pas tant que ça à l'époque. Moi, c'était la première question que je me suis posée. Est-ce que c'était l'amant caché ? Et en fait, dans tous les documents d'époque, on en parle assez peu. Ce n'était pas ce qui était le plus important, finalement.
En fait, il y a aussi une recherche historique, finalement, quand vous avez écrit ce premier roman, avant de poser des lignes sur la première question. Il y a vraiment toute une recherche historique parce que ça doit coller à une certaine aussi réalité des faits de l'époque.
Mais complètement, complètement. Il y a eu énormément de recherches historiques. Donc, je suis allée 4 fois à Venise. J'ai fait notamment des recherches dans la bibliothèque Querini, qui est la bibliothèque qui a été léguée par l'arrière-petit-fils de mon héroïne, qui a vraiment existé donc à une fondation, la fondation Querini Stampalia à Venise, qui est aujourd'hui un musée. Donc j'ai fait énormément de recherches, d'une part pour que tout colle à la réalité historique, voilà, et d'autre part parce que l'un des personnages du roman est Stendhal, alors qui s'appelait à l'époque Henri Bayle.
C'est son nom avant de devenir Stendhal.
Voilà, son vrai nom avant d'utiliser ce pseudonyme de Stendhal. Et donc, comme il y a quand même beaucoup d'amateurs de Stendhal, ça aurait été dommage de faire quelques anachronismes. Donc, tout ce que je raconte aussi sur Stendhal est vrai.
Et d'ailleurs, ça fait partie du personnage principal, mais vous évoquez Stendhal comme Henri Bayle. Comment vous avez justement travaillé, vous, ce personnage de manière à ce qu'on ne sache pas tout de suite que c'est Stendhal ?
Alors, il y a eu deux choses. D'une part, donc j'ai travaillé ce personnage de Stendhal en lisant sa correspondance. Ouais. Et j'ai fait la même chose pour mon personnage principal, Caterina Contarini-Carini, qui a vraiment existé. Donc, j'ai lu toute sa correspondance. Donc, ça m'a permis de coller le plus proche possible à son caractère et aux événements de sa vie. Et ensuite, en effet, je voulais garder un petit peu la surprise. Donc, je l'appelle Henri Bayle, mais c'est juste aussi une réalité historique. Il s'appelait Henri Bayle au moment où mes deux personnages se rencontrent. Il s'est fait appeler Stendhal beaucoup plus tard. C'est mon éditrice qui a décidé, en effet, de préciser en 4e de couverture qu'il s'agit de Stendhal, mais il portera ce nom, en effet, bien plus tard.
Alors, j'aimerais qu'on explique un petit peu comment vous avez écrit ce livre, comment vous l'avez construit. Ce sont des lettres épistolaires, il y a des blancs entre chaque lettre. Est-ce que c'est une manière aussi de laisser l'imaginaire à la personne qui va lire ces lettres, de peut-être aussi des fois recoller une certaine histoire personnelle, malgré que ça se passe au XVIIIe siècle, mais quand même, ça peut aussi parler certaines personnes, ces lettres assez épistolaires, pardon. Comment vous l'avez construit ce roman ?
En effet, en fait, le livre se compose uniquement des lettres de mon héroïne, Caterina, qui écrit soit à sa fille, soit à Stendhal. Mais on n'a pas les réponses. On devine les réponses en lisant ces lettres. Et encore, on apprend ce qu'elle veut bien nous en dire. J'ai voulu jouer là-dessus puisque ça permet au lecteur déjà de travailler un petit peu, de faire travailler son imagination et surtout de ne pas imposer au lecteur une interprétation. Donc, chaque lecteur va être libre de choisir finalement qu'est-ce qui s'est vraiment passé et donc de s'approprier en fait le livre. Donc, c'est un jeu entre le lecteur en effet et l'auteur.
Oui, mais est-ce qu'un format classique ne permettrait peut-être pas ? Vous avez quand même réfléchi d'abord à la manière dont vous alliez l'amener. C'était la première volonté de faire ces lettres épistolaires ou...
Ah, pas du tout, pas du tout. Là, ce que vous avez entre les mains, c'est la 13e version du livre.
D'accord.
Donc, il y a eu beaucoup de versions différentes. Ouais. Je l'ai abordé sous plein d'angles différents pour finir par trouver la bonne forme. Non, au début, j'avais fait tellement de recherches sur Venise, sur l'époque, j'avais vocation à faire un guérépé de Tolstoï, une fresque historique, dense, avec beaucoup de descriptions, une centaine de personnages. Donc, j'avais écrit tout ça sur le mur du bureau. Voilà. Et puis finalement, au fil des versions, Le texte s'est épuré, même si, même si toute l'histoire, et on le sent quand on lit le livre, toute l'histoire est bien plus vaste que ce qu'il en est raconté. Et puis la forme épistolaire est venue un matin où j'ai juste entendu mon héroïne parler, se raconter, et ça faisait sens en fait. J'avais la solution sous les yeux devant moi depuis déjà un certain temps. Et après, j'ai fait le choix en effet de ne pas mettre les réponses. Alors d'une part, il y a un choix pragmatique, hein, parce que les réponses, ça impliquait écrire des réponses de Stendhal. En tant que premier roman, et en plus écrivaine du XXIe siècle, écrire à la place de Stendhal, c'était quand même pas un exercice...
Mais il y a ce côté culotté qui est peut-être assumé aussi, finalement.
Oui, bah déjà, il y a un côté culotté où il y a un passage où mon héroïne conseille Stendhal sur le marketing de son livre. Voilà, donc oui, j'aime bien toujours ce...
Mais c'est une manière de le ramener aussi dans une époque qui est la nôtre.
Tout à fait.
De raccrocher à des termes qui nous parlent plus maintenant qu'au XVIIIe siècle. Ouais.
C'est vrai, tout à fait, ouais.
Elle écrit depuis un couvent.
Oui.
Pourquoi?
Alors au début, en effet, quand commence l'histoire, elle est enfermée au couvent. Alors, on découvrira pourquoi au fil de l'histoire, mais en effet, ce que je peux dire, c'est qu'en 1797, la République de Venise a pris fin. Bonaparte est entré dans la ville.
Napoléon, donc,
c'est quand même un moment assez important, puisque c'est la République de Venise, elle a duré 1000 ans. Un gouvernement qui a duré 1000 ans, on n'en a plus l'habitude aujourd'hui. Et donc, la République de Venise a pris fin, et donc cette noble vénitienne a tout perdu à ce moment-là. Et elle a intégré le couvent, et on découvrira au cours de l'histoire pourquoi.
D'ailleurs, j'ai l'impression aussi que cette histoire de l'Italie, elle est en fond finalement de ces lettres épistolaires. Elle reste un petit peu un paysage de fond. Finalement.
Tout à fait. L'histoire permet en effet de se plonger dans la Venise de l'époque. Et puis, comme elle écrit ses lettres au tout début du 19e, de faire en effet un parallèle entre la Venise du 18e et ce qui existe au début du 19e, il y a toujours cette toile de fond et ces événements historiques qui ont marqué la vie personnelle de cette femme. Donc on baigne dedans complètement.
Ce qui est intéressant à travers ce roman, c'est que ça évoque forcément la relation passionnelle qui peut découler d'un CJSB, mais aussi l'envers du décor, qui est quand même l'abandon d'un enfant. Comment on arrive à lier finalement la beauté de certaines choses et en même temps à l'horreur de ce qu'elle peut en découler, parce que finalement on pourrait faire le lien entre un mariage parfait de personnes qui va découler sur un divorce et un enfant qui va devoir alterner des fois entre son papa et sa maman. Alors, il n'est pas abandonné, parfois, l'enfant, heureusement d'ailleurs, mais il y a ce mélange de choses parfaites et choses qui sont affreuses. Oui. Comment on le mêle dans un roman?
Pour moi, justement, l'art du roman, c'est d'abord l'art de l'ambivalence. Si on fait des personnages qui sont tout blancs ou tout noirs, des faits qu'on peut facilement juger bons, mauvais et tranchés, cela perd son intérêt, alors que le roman est là pour nous montrer que dans la vie, finalement, tout est entre les deux dans cette ambivalence, comme dans un divorce. Quand on est enfant de divorcé, en effet, est-ce que c'est la faute de papa? Est-ce que c'est la faute de maman? Est-ce que tout est finalement entre les deux? Et c'est pas si simple de trancher. Et là, c'est la même chose pour mon héroïne. Je le vois maintenant que je suis en contact avec tous les lecteurs et les lectrices. Certains la jugent très durement. Oh, mais cette femme, est-ce que ça a été une mauvaise mère? D'autres, au contraire, ont beaucoup de peine pour elle. Oh, mais tout ce qu'elle a subi. Et donc, rien n'est tranché. Chacun prend parti en fonction de sa propre histoire et de ce qu'il a ressenti. Je trouve que c'est une manière aussi engagée de mettre en scène des personnages féminins, puisque un personnage féminin n'a pas besoin d'être tout rose, mère parfaite, femme parfaite, à subir, victime, etc. Elle est à la fois victime, à la fois, en effet, bourreau, elle est entre les deux, et finalement, c'est comme ça qu'elle est réaliste.
Parler d'une femme à cette époque-là et... de ce triangle amoureux qui est assez étonnant pour l'époque et que beaucoup de gens ignorent, parler d'un enfant, parler du rôle de cette mère comme vous venez de le dire, pour vous, femme qui va bientôt avoir un enfant d'ailleurs,
aussi.
qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que ça a été encore peut-être plus simple d'écrire votre livre parce qu'il y avait une certaine résonance avec votre histoire ou pas?
Je pense complètement, je pense que les livres qui comptent, qu'on n'écrit pas de manière mécanique, mais où on y met toute notre âme, c'est que ça résonne avec notre propre histoire, même si l'histoire du livre, finalement, est très éloignée de la nôtre. À l'origine, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre qui parle de maternité. À l'origine, ça devait être un livre sur l'amour, tout simplement. Il se trouve que je suis tombée enceinte pendant l'écriture du livre. Donc finalement, c'est aussi maintenant un livre qui parle essentiellement de maternité et comment on tisse une relation mère-fille à l'âge adulte. Et donc notre vie personnelle a forcément un impact, en effet, sur ce qui va être mis dans le livre. Alors mes proches arrivent à même quelquefois déceler dans des détails des choses qui viennent de la vraie vie. Et encore, faut le chercher parce que c'est pas évident. On est dans un autre contexte. Mais en effet, c'est même le conseil que je donne à toute personne qui souhaite écrire. Il ne s'agit pas d'écrire sur sa vie, de raconter son histoire, mais d'utiliser ce qu'on ressent, ce qu'on vit, pour le mettre dans une autre histoire. Et c'est ça qui rend les choses plus vraies.
Est-ce que si le Sigisbée avait été écrit par un homme, le discours aurait été totalement différent? Le regard, peut-être, aurait été différent?
Je pense que oui, bien sûr. Parce que ne serait-ce que s'il avait été écrit par une autre personne, il aurait été différent. Je pense que la chance qu'on a... quand on écrit en tant que femme et qu'on peut se permettre d'explorer d'autres territoires, je ne suis pas sûre qu'un auteur déjà installé dans des canons classiques de narration se serait risqué à faire de l'épistolaire. Et puis, y a des réalités en tant que femme qu'on vit, la réalité de la maternité, l'existence ou pas d'un instinct maternel, etc., sont des choses qu'on vit d'un point de vue de femme. Mais après, je connais des auteurs masculins qui réussissent à décrire la réalité d'un vécu féminin qui arrive merveilleusement bien. Je pense à récemment, en effet, La maison vide de Laurent Mauvignier. Il y a des personnages féminins qui sont impressionnants. Sinon, je pense à Mathieu Ménégo. Mathieu Ménégo a souvent des personnages féminins, donc que ce soit dans Je me suis tue ou Un fils parfait. Donc, c'est souvent des thrillers un peu dans un univers un peu juridique. Ouais. Et il a des personnages principaux féminins où on est complètement happé, même en tant que femme. C'est assez impressionnant. Donc, je pense qu'avec une certaine maestria, un auteur, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, peut écrire, en effet, n'importe quel livre.
Vous tenez une newsletter.
Tout à fait.
Qui s'appelle Écrire au féminin.
Tout à fait.
Est-ce que le Sigisbée, c'est peut-être le petit frère de cette newsletter?
Alors, chronologiquement, c'est plutôt la newsletter qui s'est retrouvée être la petite sœur du Sigisbée. Parce que j'ai commencé cette newsletter après avoir terminé le Sigisbée. D'abord, avec une simple volonté de partager mes lectures. Donc, l'objet d'écrire au féminin, c'est de conquérir sa liberté de femme à travers l'écriture et la lecture. Et en fait, j'ai voulu partager le fait que moi, c'est à travers les livres, que ce soit les livres que j'écris ou que ce soit les livres que je lis, que j'ai pu prendre conscience de certaines choses que je vivais en tant que femme. Et donc, en effet, assumer pleinement ce que j'avais envie de faire, la manière dont j'avais envie de vivre, conquérir cette liberté. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Et il se trouve que depuis la sortie du Sigisbée, là maintenant, donc il y a 1500 femmes qui me lisent toutes les semaines.
Ouais.
Donc, elles trouvent beaucoup d'écho. Pour ces articles qui sont quelquefois un peu provocateurs ou qui ont un peu d'humour aussi. Et avec un volet maintenant, en effet, sur l'écriture, où j'accompagne donc les femmes qui le souhaitent dans leur projet d'écriture.
Et peut-être que Katrina pourrait être la représentante finalement de cette newsletter alors.
Ah, c'est vrai que Katrina écrit clairement au féminin. Oui, l'héroïne de mon livre, tout à fait.
On va évoquer ce livre donc qui a reçu quand même déjà des récompenses et puis qui a été... Alors, il est en compétition dans certains prix littéraires.
Oui, tout à fait.
Si je ne me trompe pas.
En sélection de 8 prix littéraires. Et puis il a été en effet, il a reçu un très très bel accueil à la fois des libraires et de la presse.
Le Monde, L'Express.
Le Monde, L'Express, Le Figaro, la presse régionale, en effet, différentes régions aussi. Voilà.
C'est assez récent parce que finalement il est sorti en janvier. Vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous avez...
Ma vie a changé, littéralement. Mais vraiment, ça fait 10 ans que j'écris. Parce qu'on a tendance à croire qu'un premier roman, c'est... Tout d'un coup, il y a un inconnu qui s'est mis à écrire et bizarrement, pouf, le talent lui est tombé dessus et ça y est, il écrit un premier roman qui est publié, qui rencontre le succès. Mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Hein. C'est comme quand on se met un instrument de musique. Ce n'est pas la première fois qu'on apprend un morceau qu'on est suffisamment bon pour jouer à la salle Playel. Donc, c'est la même chose. Donc, ça fait 10 ans que j'écris dans l'ombre. Donc, déjà, être publié pour moi, pour ceux qui ont déjà tenté, qui ont déjà toqué à la porte de l'édition, c'est déjà pour moi une magnifique chance. Et alors là, en effet, les articles dans des titres de presse qui sont reconnus par tous, en effet, ça a changé tout d'un coup mon statut aux yeux de beaucoup de monde, alors que en soi, mon livre, il était déjà écrit, donc rien ne changeait. Enfin, rien n'avait vraiment concrètement changé. Mais là, oui, je peux enfin embrasser entièrement, intégralement mon rêve d'être écrivaine. Donc, puisque au-delà d'être une écrivaine qui écrit, être une écrivaine qui termine ses livres, être une écrivaine publiée, maintenant, je deviens une écrivaine publiée et qu'on lit.
Et le Figaro dit que ce roman a beaucoup de finesse tout au long de son talentueux coup d'essai. C'est un coup d'essai ?
Bah, c'est un coup d'essai, oui, parce que c'est le premier livre publié. C'est le premier livre publié. Et donc, voilà, c'est un premier roman. Après, oui, la vérité est que j'ai écrit depuis quand même un certain temps, c'est vrai, et je lutte quand même contre ce mirage qui fait croire à beaucoup d'auteurs, de jeunes aspirants auteurs, que dès qu'on termine, ça y est, son premier manuscrit, c'est bon, toutes les portes vont s'ouvrir, parce que ça demande quand même un long travail. Voilà. Un coup d'essai, après, je ne sais pas, ce sera au lecteur de juger.
Mathieu Simonnet, que j'ai rencontré récemment,
oui,
me disait que peut-être 70-80% de son travail avant l'écriture, c'était le montage, et qu'il travaillait un petit peu comme un réalisateur pourrait travailler sur un film. Mmh. Est-ce que vous avez imaginé le CIGISB comme peut-être un film ?
Pas du tout. Pas du tout, mais c'est fait partie des techniques d'écriture que certains utilisent. En fait, je trouve que quand on apprend à écrire, le temps de devenir écrivain, on apprend surtout à apprendre à se connaître en tant qu'écrivain. Donc, on teste plusieurs méthodes que d'autres ont appliquées jusqu'à trouver la bonne pour soi, qui va être finalement un mélange de méthodes ou de différents écrivains qu'on a empruntés. Et c'est vrai que traditionnellement, il y a aujourd'hui, on fait beaucoup de liens entre le cinéma et l'écriture. Et on peut, en effet, composer un livre comme on compose un scénario de cinéma. Mais pour moi, après avoir testé aussi cette méthode-là, pour moi, la littérature a par nature quelque chose d'intrinsèquement différent.
Parce que vous êtes dans une maison d'édition, en plus, qui a un rapport entre le roman et le cinéma, parce que c'est la maison d'édition qui a mis en avant En attendant vos jongles.
Tout à fait.
Qui est paru donc en roman et au cinéma, qui a été une réussite. Donc je me dis peut-être qu'il y a des idées qui vont vous être soufflées.
Bah, en effet, ma maison d'édition est une maison d'édition donc de littérature, donc il
prend
d'abord des textes totalement indépendants, il faut le souligner, et qui choisit d'abord ses textes pour leur qualité littéraire, et après, il se trouve qu'un des débouchés pour des romans qui fonctionnent bien, c'est le cinéma, évidemment, qui permet d'atteindre un public beaucoup plus large.
C'est les éditions Finitude, pour les citer. Du coup, ma question, c'est si vos trois personnages de ce roman devaient être joués par des acteurs à l'heure actuelle, vous choisiriez qui ?
C'est une question sur laquelle on a déjà réfléchi, parce qu'on s'est beaucoup amusé. Je ne sais pas si vous avez vu passer, on s'était amusé à créer juste entre nous, une fausse affiche de cinéma.
Ah non, je n'ai pas vu. Non,
vous ne l'avez pas vu ? Ah, c'est bon. Donc voilà. Donc donc on a déjà eu cette discussion pour s'amuser, parce que c'est vrai que le cinéma met des étoiles plein les yeux à tout le monde, à tous les auteurs. Et on avait imaginé Monica Bellucci, dans le rôle de Caterina. Ouais, voilà.
Bah, qui a eu beaucoup de rôles historiques, en plus.
Exactement. Voilà. Et ensuite, moi, j'aurais choisi pour le mari Giovanni Pierninet, évidemment.
D'accord.
Voilà. Okay. Et pour le CIGISB, Pio Marmaille.
D'accord.
Ouais. Et alors, pour la petite anecdote, donc, on a fait un exercice très, très, très drôle. C'est la mode en ce moment. J'ai voulu faire générer par l'IA une affiche de cinéma.
Ouais.
Et donc, en effet, une affiche de cinéma, ça, l'IA marche un peu mieux maintenant. Donc, j'ai eu droit à Monica Bellucci en costume d'époque, du 18e. Pierre Ninet aussi. Et Pio Marmaille, l'IA a refusé de me le mettre en costume d'époque du 18e.
D'accord.
Il l'a laissé en t-shirt noir. J'ai essayé tous les prompts possibles, tout.
Non, impossible.
À chaque fois, il me répondait, cela est contraire à notre politique quant au contenu sensible par rapport à la sexualité.
Ah ouais, d'accord.
Donc,
c'est dingue.
J'ai interprété ça comme quoi l'IA jugeait que Pio Marmaille, en tenue d'époque de CIGISB du 18e, c'était peut-être beaucoup trop chaud.
Vous allez être en dédicace aujourd'hui.
Oui.
À l'heure où on se parle, c'est dans quelques heures, à une librairie Le Cyprès ici à Nevers. Hier, vous étiez à Moulins, sur Allier. Mes deux questions, pourquoi c'est important de rencontrer ces lecteurs et qu'est-ce que ça vous apporte de rencontrer vos lecteurs ?
Alors, la première réponse, la rencontre des lecteurs, c'est quelque chose sur lequel je me suis projetée depuis des années, tout au long de l'écriture du roman, puisque l'écriture est quelque chose de très solitaire. Et cette deuxième étape de rencontre avec les lecteurs, ça me fait éminemment plaisir de discuter avec les gens, de connaître leur histoire, de savoir ce que le livre a suscité. Puis la deuxième partie a trait aussi à la construction du livre, on en a parlé. Donc le livre, en effet, se construit finalement avec les lecteurs, parce que chacun peut en donner sa propre interprétation. Et ça, j'adore. Chaque fois que je vais rencontrer les lecteurs, qui me disent ce qu'ils en ont pensé, ils sont toujours des avis très tranchés.
Oui, je me suis toujours posé la question si pour un auteur, c'était pas un petit peu une prise de risque aussi de demander aux lecteurs qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Parce qu'on a toujours peur qu'ils comprennent pas finalement peut-être l'histoire, ou alors qu'ils aient une interprétation qui n'est pas la vôtre.
Bon, je pense que ça dépend de l'ego et de l'ego qu'on a. Mais moi, au contraire, non, ça me plaît beaucoup, même quand ça leur a pas plu, en fait. Je suis toujours contente parce que ça me, en fait, ça ouvre des horizons. À chaque fois, je me dis, ah, mais c'est fou, j'avais jamais remarqué ça dans mon livre. Ouais. C'est vrai. Et puis, quelquefois, les gens s'attachent à un détail. Je me suis dit, tiens, je pensais pas que ce détail a attiré l'attention, ou bien à des interprétations. Alors, j'ai, par exemple, globalement, il a eu un très bon retour. J'ai eu très bon retour des lecteurs qui étaient plutôt enthousiastes, mais j'ai eu un retour, par exemple, négatif. Des lecteurs qui avaient mis une critique sur Internet et qui avaient dit, donc, le livre, je divulgue, a une fin ouverte. C'est-à-dire que, finalement, la fin, on peut l'interpréter à sa manière. L'aperçoivent vraiment de manière ouverte, on ne sait pas. D'autres, au contraire, ont une opinion bien tranchée, me disent, mais si, c'est évident, c'est ça, la fin. Et puis d'autres, au contraire, ont une opinion tranchée inverse. Et donc là, c'est un lecteur qui disait, oh, mais la fin ouverte, l'auteur devait être fatigué, a décidé de pas terminer son livre, voilà. Je lui dis, ah tiens, Donc non, je trouve pas que c'est une prise de risque. Au contraire, je pense que c'est le jeu. Quand on écrit, même quand on écrit un livre avec moins de portes ouvertes, chacun va l'interpréter d'une manière différente et c'est ça qui est intéressant.
Quelle est la suite maintenant pour Lucie Gisbet?
Alors, il y aura pas de suite au livre pour Lucie Gisbet, si ce n'est une suite, puisque j'espère que cela inspirera beaucoup de dames de notre époque à prendre des Sigisbées. Mais par contre, je prépare en effet le prochain roman, toujours chez Finitude, donc qui sortira normalement, potentiellement en 2028.
D'accord.
Et il faut juste que je prenne le temps de l'écrire.
On le sait de quoi il va parler, on sait quel sera le sujet.
Moi seule le sais.
D'accord.
Okay. Et pour l'instant, j'en parlerai pas encore. Mais il y aura toujours un personnage féminin fort.
D'accord.
Voilà.
Avec cette idée toujours d'être dans une époque maintenant révolue, entre guillemets, ou peut-être plus rattachée à la société actuelle?
Un peu des deux.
Okay. Très bien. Bon, bah, faire à suivre.
Voilà, faire à suivre.
Merci beaucoup.
Bah, je vous en prie.
Et je rappelle que le Sigisbé, le premier roman de mon invité aux éditions Finitude, est à retrouver dans toutes les librairies les plus proches de chez vous.
Rejoignez The Vox sur thevox.fr, sur l'application mobile et sur les réseaux sociaux. The Vox.